Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Beef, calf, droit, gauche, droit. Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, nature au parti. Lymphe de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Laurent, c'est pour parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
en direct d'un salon de Rosemont, Montréal. Quand t'as un 2,5, t'as une cuisine, puis t'as un salon que t'improvises en chambre à coucher. Là, le monde, souvent, ils vont mettre un genre de division chinoise. Là, c'est pas vraiment pour faire beau, hein. C'est pour pas que, quand t'écoutes la TV, on voit ton lit un peu défait à côté. Hier soir, j'étais chez le spectaculaire Philip Farley, où nous étions plus d'une centaine cachés dans son salon. Puis là, on était cachés. Et j'avais déjà vu une grande maison dans ma vie, mais là, ça dépasse l'entendement. C'est tellement grand chez Philip Farley que à chaque pièce, il y a sur le mur, il y a vraiment, comment qu'on appelle ça, là, une carte, pas une carte postale, mais il y a le plan de la maison pour être capable de se retrouver si jamais le feu prend pour sortir. Dans ma compagnie, chez Post Canada, on a quasiment un peu partout un plan d'évacuation au cas où qu'il y ait le feu. Chez Farley, c'est tellement grand que les pompiers l'ont averti et il se doit d'avoir dans chaque pièce un plan d'évacuation. Parce que si le feu prend et tu es dans la cuisine, tu vas chercher longtemps la porte d'entrée tellement que c'est grand. On parle d'un manoir. Donc, c'était incroyable. Sa conjointe, Marie-Pierre Roule, de la chronique Marie-Pierre Roule que je fais présentement, elle avait mis le paquet, gâteau Ferrero Rocher, des caisses de fort un peu partout pour ceux qui voudraient se faire un petit shooter, des fromages d'une qualité. Il t'avait un petit camembert, il y avait un bleu, pas piqué des verres. Pour quelqu'un qui a inventé la gourmandise comme moi, c'était vraiment impeccable. Et une cour extérieure tellement grande que j'appelle plus ça une cour, j'appelle ça la forêt, tellement que c'était grand. Donc, on a été vraiment bien reçus. J'aimerais mentionner mon ami Jean-Francis Durocher qui a réussi en affaire. Jean-Francis a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Il a amené, tenez-vous bien, 7 caisses de 24 de bière de microbrasserie, donc des grosses canettes. Et là, il dit, Laurent, si on en manque, je retournerai en chercher. Mais, tu sais, 7 caisses de 24, plus du fort, puis tout ça, c'était grandiose. Et je félicite Marie-Pierre Roule, qui a pris les clés de tout le monde au début et avait préparé des lits de camp pour que les gens puissent dormir au sous-sol. Parce que je rappelle que lorsqu'on prend de l'alcool, on ne conduit pas. D'ailleurs, cet épisode est commandité par les Alcooliques Anonymes. C'est l'épisode 120. 120. Ce jeu de mots, je sais que ça vous fait plaisir. Toujours drôle, les jeux de mots. Quand on fait un podcast à chaque semaine, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il y a moins de nouvelles. T'sais. Fait que là, tu essaies de faire ton 45 minutes, il n'y a pas de nouvelles. Fait qu'inquiétez-vous pas, je vais vous raconter ma vie, je vais vous raconter mes exploits en bas âge. Il n'y a rien que je ne ferai pas dans ce podcast. On est dans la fin de semaine de WrestleMania et j'écoute de moins en moins la lutte, mais je vais lire les résultats. Dans les grandes annonces, en avril, moi et Vincent Tremblay, on va relancer Poulain Tremblay, le knockout. Et j'ai un scoop. On a une nouvelle introduction. Ça va bûcher en joie le vert. J'ai promis de ne pas en dire plus. Vincent C'est lui qui a financé le projet avec son avec le 500$ que François Legault lui a donné. Donc, il veut pas que j'en fasse l'annonce tout de suite, mais je vous dis que ça va bûcher. On va recevoir, tenez-vous bien, là, le 8 avril prochain, Marc Ramsey, qui va venir avec son chapeau de directeur du développement de Eye of the Tiger. Mon plan, c'est de faire 35 à 40 minutes avec lui, de faire le tour des situations chaudes, des questions que vous, à la maison, vous voulez poser, mais que les gens ne posent pas nécessairement. Comme exemple, tu as trois gars dans le top 10 à 168 livres. Ils ne peuvent pas s'affronter. C'est quoi le plan? Puis, de toute manière, c'est Canelo qui a toutes les ceintures. Puis on va discuter de ces choses-là. Le 15 avril prochain, on va recevoir Yvon Michel pour groupe Yvon Michel. À chaque fois qu'il reçoit Yvon Michel, il finit par trop parler, puis il nous donne des infos intéressantes. Je vais l'appâter dans mon entrevue. Je vais l'asseoir dans le sofa. Là, on va discuter. Dès que je vais sentir que la garde est baissée, je vais aller chercher toutes les scoops sur le marché. On va tout savoir. Faites-moi confiance. Et le 22 avril prochain, on reçoit Yann Pellerin. Yann Pellerin va faire son premier show le 20 mai prochain au 10-30 à Brossard. Et je vous donne déjà un petit scoop. C'est pas évident de convaincre les Québécois de s'affronter. Des fois, on aime les combats locaux. On pense que c'est facile à organiser. Les gens sont fiers. Ils ne veulent pas toujours embarquer dans des combats 50-50 contre quelqu'un de leur région, parce qu'on pourrait en entendre parler souvent après. On a appris aussi, et ce n'était pas un poisson d'avril, que David Benavidez et David Lemieux vont s'affronter. Mais ça, on le savait, là, mais ça va être sur les ondes de Punching Grace. J'aimerais mentionner à mon ami Richard Lécuyer, qui m'accuse d'être commandité. Je ne reçois absolument rien de Punching Grace, mais je sais reconnaître une bonne offre quand j'en vois une. À 11$ par mois pour les galas qui s'en viennent, avec David Lemieux contre Benavidez inclus, c'est un bon prix. Commençons ce podcast.
Les gars sont timbrés comme une carte postale.
L'album de Sadamos est suspecté pour ceux qui aiment le rap québécois. Va sortir, je crois, cette semaine. Et ça, c'est extrait de la chanson Pisse de chat. C'est le titre. Je vais vous surprendre cette semaine, je vais plus y aller à l'international. Je sais que c'est un podcast où d'habitude je vous surprends en parlant des histoires du Québec. C'est un peu plus doux cette semaine, les galas sont derrière nous. Je pourrais vous donner des petites infos, je vous en donnerai, je vais les glisser à travers peut-être la chronique internationale. Mais le gros morceau de la semaine qui s'en vient et qu'est-ce qui va faire beaucoup de bruit, c'est Gennady Golovkin. Moi, je le prononce de même. Là. Je sais probablement que je le prononce pas bien, mais 41 victoires, une défaite, une nulle. Possiblement un des plus grands boxeurs de notre époque. 36 victoires par KO, un ratio de 83.72. J'y vais à l'œil, j'ai pas ma calculatrice avec moi. Donc lui, passe pro en 2006, démolit à peu près tout ce qui bouge. Et là, on va le connaître, nous, parce qu'il va arriver en sol nord-américain. Pour nous, il y a à peu près 10 ans jour pour jour, en septembre 2001. Il est sur une carte, j'ai dit la bonne date, moi, ouais. En septembre 2001, il est à la télévision cette journée-là. Je me rappelle pas exactement qui HBO... Je pense que HBO est encore là, si ma mémoire est bonne. Là, il arrive, puis là, Golovkin est en combat de championnat pour la WBA contre Gregor Proska. Et ces deux boxeurs qui sont invaincus à l'époque, Golovkin, les gens ne savent pas trop c'est qui. Et là, rouleau compresseur sur Proska, l'animateur maison va crier « Golovkin ! » Et le trésor le mieux caché de la boxe professionnelle présentement. Et le hype embarque quasiment tout de suite. Là, il va défoncer Gabriel Rosado. Il va passer par-dessus les câbles Nubo Hiro Ishida. Il va détruire Matthew Maclin. Curtis Stevens va faire une histoire avec lui, un peu comme il avait fait avec David Lemieux. Mais Golovkin va le passer. Après ça, on va descendre les noms, là. Daniel Gill, Rubio, Martin Murray, Willie Monroe, David Lemieux, Dominic Wade, Kell Brook, Daniel Jacob. Et là, après toute cette série-là, il va faire son combat nul avec Alvarez, va revenir défoncer Saúl Álvarez Canelo, va revenir défoncer Van Matirosyan, va perdre un combat très serré contre Saúl Álvarez, et là, il va refaire sa crédibilité, entre guillemets, contre Steve Rose, Sergei Derevyanchenko et Kamil Zrezemata. Pour plusieurs, Golovkin a ralenti. Là, c'est certain qu'on parle de un combat dans les trois dernières années contre Zrezemata en 2020. N'a pas boxé en 2021. Son prochain combat, la question qu'il y a autour de Golovkin, c'est est-ce qu'il a ralenti? Parce qu'il est rendu à 39 ans. Dans son contrat, il a droit à un combat revanche contre... Il a droit à une fin de trilogie contre Canelo. Puis DAZN est tout le temps essayé de faire croire que oui, tu vas l'avoir ton combat. Parce que sinon... Lui, il y a des clauses. Genre, s'il n'a pas son combat, je pense qu'il faut qu'il donne 20 millions. Fait qu'ils sont pris à essayer de convaincre Golovkin pour pas, Canelo pour ne pas payer le 20 millions. Il y a une patente, là. Je ne suis pas avocat vedette. Mais là, pour avoir droit à tout ça, il faut quand même qu'il reste invaincu. Puis, lui, il s'est dit, je ne suis pas pour attendre Canelo le restant de mes jours. Je dois prendre des combats importants. Et où la grosse argent est avec Tekken Promotion au Japon. Ou Ryota Murata. Ryota. Des fois, je prononçais Ryoto, puis j'étais dans l'erreur. Lui aussi, il n'a pas été très actif. Il n'a pas boxé depuis Steven Butler en décembre 2019. Lui, c'est un champion du monde olympique. Lui, on va commencer à entendre parler de lui. Je veux dire, il défonce tout le monde tranquillement, pas vite. On lui trouve une ceinture assez vite, merci. Et il va perdre contre Hassan Ndam, où il se fait voler au juge dans son propre pays. C'est gênant, le vol qu'il va avoir. À un tel point que c'est gênant, que le soir même, le président de la WBA dit « J'ai jamais été gêné comme ça. J'oblige un combat revanche. » C'est lui, là, le président, qui met son coup de marteau sur le bois, puis qui dit « c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre échappatoire, combat revanche ». Il dit « c'est scandaleux ce qui vient d'arriver », puis je me rappelle qu'il avait écrit une lettre ouverte, puis il n'allait pas avec le dos de la cuillère morte. Et là, on a une revanche, puis il va gagner Murata au 7e contre Ndam. Ndam va se faire jouer un autre tour, il va sortir flat contre Rob Brandt, il va perdre son titre à Las Vegas. Encore là, il avait négocié son combat revanche. Toujours faire attention, les Japonais sont de solides négociateurs. Et il va défoncer Rob Brandt. Mais au deuxième round, il laisse aucun doute. De retour chez lui à Osaka. Parce que c'est comme province de Québec. Ville de Québec. Et là, après ça, il va offrir un combat revanche contre... pas un combat revanche, il va offrir une défense de titre optionnel contre Steven Butler. Et là, ça fait plus de 15... Ça fait plus de, si je sais compter, 1, 2... Ça fait quasiment 30 mois qu'il n'a pas boxé. Et là, il défend son titre contre Golovkin. Champion du monde olympique, un gars qui est très offensive-minded, comme on dit, un esprit très offensif. Il va avoir... Ça, je pense que c'est à 7h le matin au Japon. Là. Moi, je vais me lever, il n'y a pas de problème. Ça va être très offensif et très dur de dire ce qui va arriver. Est-ce que Golovkin est rendu trop vieux? Est-ce que Murata est capable de faire mal à Golovkin qui n'a jamais été ébranlé en 40 ans de carrière? Est-ce que Golovkin a ce qu'il faut pour arrêter Murata? Est-ce qu'il a encore sa fameuse puissance d'antan? Vos réponses sont aussi bonnes que mes réponses. Donc, vraiment, c'est le combat de la semaine. C'est le combat à surveiller. Ça va être l'histoire de la semaine aussi. Les Japonais savent faire dans la promotion. Ils ont énormément de dollars. C'est vraiment ce qu'on va focusser. C'était le sujet à focusser. Je vais y aller d'une prédiction. Golovkin va arrêter Murata vers le 9e. Butler a eu beaucoup de succès offensivement contre Murata avant de se faire arrêter. Le concept de Murata, un peu kamikaze, de donner pour recevoir, fonctionnera pas contre un cogneur de la trempe de Golovkin. Et ce, malgré ses 39 ans. Victoire de Gennady Golovkin au 9e par TKO. Tant qu'à être déjà dans la chronique internationale, puis j'ai pas envie de mettre un autre interlude, au pire je l'improviserai. Continuons ce podcast. Dimitri Bivol a été rencontré en entrevue cette semaine en vue du combat contre Saúl Canelo Alvarez et a annoncé: je ne suis pas dupe, je sais comment les juges fonctionnent, je sais que j'arriverai possiblement pas à dominer assez Canelo pour gagner les rondes si je garde mon style habituel. Il a dit: j'ai l'intention d'être beaucoup plus agressif et de me battre comme si ma vie en dépendait dans le combat le plus important de ma vie. Donc, tant mieux, hein, parce que si Bivol arrive dans ce style-là, le 7 mai prochain, on va avoir une guerre de tous les instants. Moi, je suis très, très, très curieux à propos de ce combat. Aussi, revenons à mon Golovkin-Murata. Sur DAZN, ça c'est drôle, parce que Golovkin-Murata, je vais vous aider, c'est à 6h le matin sur DAZN. Donc, soit tu te couches pas, ou soit tu te réveilles tôt. Mais le soir, pour ceux qui, mettons, dormaient le matin, il va y avoir Michaela Mayer contre Abraham Ann sur ESPN. Et sur DAZN, on va te présenter Ryan Garcia contre Emmanuel Tago. Puis sur Showtime, on va te présenter Erickson Lubin contre Sébastien Fondura. Fait que le 9 avril, c'est vraiment une grande journée de boxe. On ira combat par combat un peu plus tard. Savannah Marshall a détruit Famke Hermans au 3e round. 12 victoires, 0 défaites, 10 KO dans une boxe féminine où les KO sont très rares. Savannah Marshall est un animal et maintenant elle n'a plus d'autre choix que d'affronter Clarissa Shields. Je ne sais pas comment qu'on va s'y rendre. Rolly Romero, un gars que je vous parle à chaque semaine, il me fait rire, Rolly Romero, a dit que le Gervonta Davis allait être son combat le plus facile en carrière. J'adore. George Camboso Jr., qui a surpris Teofimo Lopez, a dit que Tank Davis, Gervonta Davis, Devin Haney et Ryan Garcia, ce serait pour lui des combats dans une zone de confort, que ça allait être très facile, puis qu'à la limite, après ça, il va aller contre Lomachenko pour travailler un peu plus fort. Errol Spence dit que depuis le début de sa carrière, il est à seulement 50% de ses capacités, qu'à chaque semaine, à chaque combat, il traîne une petite blessure avec lui, puis des petites patentes. On verra bien. De La Hoya a dit qu'il allait sauver sa carrière de promoteur qui va moins bien dans les dernières semaines. Les dernières années, grâce à Ryan Garcia, qui avait vraiment misé sur les bons numéros à la loterie. Josh Warrington aimerait affronter Leo Santa Cruz. Kell Brook veut continuer. Parle de Connor Bean de plus en plus dans les médias anglais. Il en parle un peu. Scène locale, je vous glisse une décision locale au travers. Notre ami Elider Alvarez pourrait boxer, devrait ou pourrait, dépendamment de son niveau de condition physique, va boxer le 7 mai prochain au Casino de Montréal dans une carte présentée par Yvon Michel. On va essayer de le repartir chez les 200 livres, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que Stéphane Larouche est vraiment là. Il ne lui laisse aucune chance. Il dit: il va falloir que ta préparation physique soit parfaite. Il va falloir que tu dormes dans le gym quasiment. Et là, je vais te donner ton combat de ton retour à 200 livres sur la carte du 7 mai. Sinon, ce qu'ils vont faire, c'est 7 mai. Sinon, ils vont simplement avoir Mathieu Germain puis Maslow McDonough en finale et demi-finale. Puis ils ont des combats quand même assez sérieux. Donc, on y a, pour groupe Yvon Michel, on n'a pas besoin de absolument d'avoir Elander Alvarez en finale. Dina Torslund, pour ceux, on va commencer le calendrier de la semaine prochaine. Je vous garoche des affaires cette semaine. Je sais pas, j'ai pas envie d'être structuré. Combat à écouter la semaine prochaine. Au Danemark, Dina Torslund va affronter Niorkis Careno. Torslund, faut suivre le podcast 120 secondes pour savoir que c'est une des meilleures au monde. Sur la même carte, Alex Dilmagani, qui a longtemps été avec un promoteur canadien, va affronter Victor Julio. Donc, Dilmagani, je ne sais pas pourquoi. J'ai son nom en tête parce que je l'ai souvent vu au Canada. Chez les lourds, en Allemagne, la même journée, Tom Schwartz, qui est 26-1. Tom Schwartz, je vais vous donner une idée, c'est un peu comme Simon Kane, tu sais. Il a une grosse fiche. Éventuellement, son nom va servir contre quelqu'un du top 10. Pas nécessairement pour gagner, par exemple, tu sais. Tom Schwartz, il a déjà affronté Tyson Fury, s'est fait geler au deuxième. Lui, il espère être rappelé une autre fois. Tu sais, un Dubois, un Joseph Joyce, il se faufile pour ça. En finale, en Allemagne, cette journée-là, c'est Rico Müller, l'ancien aspirant mondial. Il y a eu une époque, quand j'étais plus jeune, là, j'écoutais les cartes en Allemagne l'après-midi. Mais là, j'ai découvert les filles, puis les parties d'un bar. Puis là, je me suis un peu calmé sur les cartes obscures en Allemagne. On va tomber aux choses sérieuses. Comme je vous ai dit, Golovkin en finale à 6h du matin contre Ryota Murata. Mettez vos cadrans. Je dis, vous recoucherez après ou vous ferez votre journée. Dans sous-carte, le combat intéressant, c'est Ryota Yamuchi contre Yonto Nakatani pour le titre WBO et Shushiro Yoshino contre Masayuki Ito pour un titre WBO asiatique. Je dis pas. Ça se peut que je me réveille pas à 4 heures. Là. Ça se peut que je me réveille juste pour les deux combats finales, quand même. Hey, quand même des limites. On est beaucoup dans la dernière semaine. J'avais pris des notes. Fernando Vargas, ses fils n'arrêtent pas de se battre. Asim Rahman va affronter. Le fils de Rahman va affronter le fils de Tommy Morrison. Et là, un prospect qui est vraiment en montée, mais avec qui on prend notre temps. Antonio Tarver Jr. est rendu 8-0 en Floride. Il va affronter Dennis Reed, qui est 3-10. Il arrive un âge où on est tellement vieux qu'on voit les deuxièmes générations. La semaine prochaine, il y a des excellents combats que vous ne devez pas manquer. Là, depuis tantôt, je vous raconte des combats moins importants. Là, on commence à aller avec la grosse gomme. Ben, Golovkin, j'en ai parlé. Golovkin, Murata, c'est la grosse gomme. Showtime, le soir, prépare une carte que tu dois écouter au complet, OK? Erickson Lubin contre Sébastien Fondoura. Lubin, c'est un prodige qui s'est fait arrêter par Charlot et qui est redevenu un prodige. Sébastien Fondoura, c'est un gars de 6 pieds 6 pouces qui boxe à 154 livres. C'est un cirque. Le gars est à 6 pieds 6. Tu ne dois pas manquer ça. Lubin favori. Fondoura déjoue les pronostics depuis le début de sa carrière parce qu'il mesure 6 pieds 6. Le titre WBC intérim est en jeu. Le gagnant va avoir le droit de retourner en championnat du monde. Tu veux pas manquer ça, ne serait-ce que pour voir le phénomène physique de Fondoura puis la grosse gauche d'Erickson Lubin. La sous-carte, tout est intéressant. Je vous l'ai dit, tout est intéressant. Tony Harrison, qui est un genre de Floyd Mayweather des pauvres dans son attitude, ancien champion du monde lui aussi, va affronter Sergio Garcia. Garcia, un Espagnol de 33-1, qui a toujours été bien classé, qui a perdu la seule fois qu'il est sorti d'Espagne contre justement Sébastien Fondoura. Tony Harrison ne devrait pas travailler trop dur. Kevin Salgado Zambrano contre Brian Perella. Et Yamonte Clark, qu'on a connu au Québec, contre Aaron Cody. Ça vaut la peine, je vous le dis. Là, Showtime le soir, on a quelque chose. Sur DAZN à 9h le soir, on a Ryan Garcia contre Emmanuel Tago. Tago n'est pas un mort à l'avance dans ce combat-là. A ses chances de déranger Ryan Garcia, voire même de gagner des rondes. La demi-finale, c'est George Rincon contre Alejandro Firas. Ryan Garcia, c'est un happening, ne serait-ce que par le nombre d'abonnés qu'il y a sur les médias sociaux. Le promoteur a signé Ryan Garcia parce qu'il est prodigieux, puis parce qu'il voulait ramasser les médias sociaux autour. Ça, c'est quelque chose qu'on ne s'est jamais vraiment caché du côté de son promoteur, Oscar De La Hoya.
Mais que ce soit Johnny Gaudreau, que ce soit Hulk Hogan, que ce soit King Kong Bundy, n'importe qui, il faut que le défende. Ouais. Moi, honnêtement, les gars, moi, la semaine de congé, là, ça l'aurait caliqué dans le derrière, pour dire ça.
La façon... Il fait la même chose.
Une affaire que je fais un peu moins les dernières années, c'est de vous parler de la scène canadienne et... On va faire juste un, vu qu'on est au début du mois d'avril, là, nouveau projet. On parlait du mois qui s'en vient. Au Québec, mais pas du mois, là, mais des combats qui ont été sécurisés pour les mois à venir. Au Québec, jeudi le 21 avril prochain, on a Yesenia Gomez qui va affronter Kim Clavel. Maintenant, on a la sous-carte au complet. Dieudonné Wilfred CI va affronter David Benitez. Benitez est 8-5. Mais déjà participé aux séries mondiales de boxe, devrait être capable de tenir quelques rondes. C'est intéressant encore là de voir comment on va relancer Wilfred Tilly, qui va se battre à 175, mais je crois pas qu'on délaisse les 168 pour autant. Hubert contre Cesayo Souya, ce médaillé d'or brésilien, est rajouté à la carte du Casino de Montréal, appartient à Pro Bellum. Louis Jourdain va affronter Jésus Solis Réaille. Jourdain, c'est clair, c'est simple. Il a dit à Vincent Morin, dès que tu as de la place, tu m'appelles, tu me rajoutes. Puis lui, il est prêt à affronter n'importe qui, n'importe quand. Il monte sa fiche tranquillement, pas peur de personne. Derek Pomerlo, 1-0, va affronter un boxeur invaincu. Victor Salazar Cisneros. Éric Bazran va affronter Jorge Castro et Samuel Lajoie-Derry va affronter Benjamin Solar-Martinez. Ce qui est intéressant, c'est que le 5 mai, ça c'est un autre jeudi, ils vont être en train d'acheter tous les jeudis, ça doit être une raison technique pour la télévision. Je n'ai pas le droit de vous dire les adversaires, mais Mathieu Germain a un excellent adversaire. Maslow McDonough va être dans un vrai test. On parle de Eder Clairvoy sur la carte. Et sur cette carte-là, il pourrait avoir, c'est un 5 mai, le retour de Elider Alvarez. Ça va assurément faire du bruit, ça, quand Elider va être annoncé pour vrai. On se dirige en Nouvelle-Écosse. On a appris cette semaine que le 7 mai prochain, Ryan Rosicky va affronter le boxeur invaincu Yamil Alberto Peralta pour un aspirant, un rôle d'aspirant obligatoire, je pense, à la WBC. Peralta, c'est pas un doux, là. Un Albertain, un Argentin, a détruit tout ce qui bougeait dans son pays, vient ici en Nouvelle-Écosse. Et les boxeurs que vous devez connaître, Caroline Redmond, OK, chez les 154 livres, si ma mémoire est bonne. Exactement, moi, on dit que j'ai une bonne mémoire. Jake Daou, chez les poids moyens, un énorme talent. Et John Michael Blanco chez les 168 livres. Blanco, c'est quelque chose. Martine Vallière-Bisson ne jure que par John Michael Bianco. Elle m'en parle quand il se bat. Un gars qui était un prodige. Sa sœur est décédée, je pense, d'une maladie rare. Sa vie est compliquée les derniers temps. C'est un gars qui s'était signé, je crois, par Top Rank. Et là, il y a des dates de combat pour lui. Il va se battre en avril au Panama, à Pomona, je ne sais pas c'est où aux États-Unis, contre un boxeur de 500. c'est quelqu'un qui... Le Québec avait Stephen Butler comme prodige, et au même poids, il y avait Zoïd Darani. Zoïd Darani, trois fois champion d'Hongrie, trois fois champion du Canada, il se qualifie pour aller représenter le Canada aux Olympiques, si ma mémoire est bonne. Et là, on découvre qu'il est hongrois. En tout cas, il y a eu une patente à pu finir. J'arrive pas à l'expliquer, là. La citoyenneté s'en est mêlée. Là, t'as la double citoyenneté. Tu peux pas te qualifier à une place, boxer pour l'autre. En tout cas, il y avait tous les qualifs étaient faits. Puis il s'est ramassé à pas pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Donc, il a passé pro comme à 18 ans. C'est la même chose que Stephen Butler. Sauf que lui, on l'a protégé en allant chercher que des adversaires tout croche toute sa carrière. Toute sa carrière. Un moment donné, on lui a amené Benjamin Whittaker en 2020. À travers tout ce qu'il avait vécu, il a perdu une majority decision. Et là, on veut le relancer, mais très rapidement. Il va se battre le 2 avril. Il va se battre le 7 mai et le 21 mai. Le 7 mai, c'est au Canada. On veut que les choses aillent vite avec lui. On veut le mettre sa défaite en arrière. C'est un prodige tourmenté. Et je ne peux pas vous dire jusqu'à où ça va monter dans son cas, quand ça va arrêter ou pas, je ne sais pas. Il est prodigieux, mais il a vécu la vie qu'il a vécu. Justin Kendoza, ça va être en Ontario aussi, je ne sais pas où c'est qu'ils sont allés le pêcher, c'est un Canadien, il est bourré de tatou. Il va affronter Cecilio Santos, qu'on a déjà connu contre Rudy Pierre-Paul. Santos qui a une fiche de 500, 36-36. Après ça, beaucoup de boxeurs qui passent pro que je connais pas. Un gars de l'Ontario qui s'appelle Matuzan Maninda. Bonnie Hunter va affronter Marie-Cruz Gomez-Soto. Bonnie Hunter, c'est une fille qui sort des amateurs que je me rappelle avoir vu contre Marie-Pierre Hull dans une autre vie. Là, elle va affronter Marie-Cruz Gomez-Santos que Martine Vallière-Bisson avait démolie en quelques secondes au Mexique. La fille est 0-3-2. Et Victor Reynoso va affronter je ne sais qui. Là, on est à Brampton, en Ontario. Rappelez-vous, Brampton, Ontario, c'est parce qu'on y retourne le 28 mai prochain sur les ondes de Punching Grace. Et là, j'ai pas le droit de parler, là, mais il y aurait deux boxeurs très importants de Eye of the Tiger qui seraient rajoutés à cette carte-là que vous allez pouvoir écouter à la maison. Josh Wagner va affronter Richard Holmes. Sundeep Singh Batty va se battre aussi. Il y a le prospect Joshua Fraser que vous allez pouvoir voir. Ricardo Brown, l'autre prospect. Et on rajouterait deux boxeurs de Eye of the Tiger, dont un qui se nommerait Eve Ulysse. Je vous en dis pas plus. Dans un autre ordre d'idée, Yvon Michel a toujours espoir d'aller en Colombie pour que Oscar Rivas défende son titre. Et attendez-vous à une grosse surprise en demi-finale. Là, je vous mets ça dans la tête. On se garde ça. On reviendra avec ça plus tard. C'est une bonne idée, hein? C'est un truc. Dans les choses qui ont dérangé, on retourne sur la scène internationale. Tyson Fury a pris... Gerald Miller comme sparring partner en fonction de son combat contre Dillian White. Ça m'a fait rire parce que Gerald Miller, tu sais, qui ne prend plus de stéroïdes, il a mangé une raclée dans son premier sparring contre Tyson Fury et il le dit ouvertement. Tu sais, oh mon Dieu, l'inactivité, j'ai plus de stéroïdes. Ben, il a pas dit ça de même, là. Mais il a dit, l'affaire, j'en ai mangé une joie le vert, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas mis mitaine, là. Il dit, c'est bon, je vais me replacer, mais c'est rare les boxeurs qui vont avoir assez de bagou pour dire clairement que ils ont mangé une volée. Oscar Rivas, ça, je vous ai parlé tantôt, ça, c'est bizarre, OK? Parce que là, Oscar Rivas, il n'y a plus d'aspirant obligatoire. Ils ont reculé Romanov numéro 2 à cause des histoires en Russie. Fait qu'il n'y a pas d'aspirant numéro 1. Là, Rivas devrait affronter son aspirant numéro 3, qui est Lukas Rosensky. Les trois autres associations n'ont pas embarqué dans cette histoire-là. Donc, Romanov est comme... Rivas est comme tout seul dans l'histoire. C'est bien bizarre. Puis, même sur la WBC, ils mettent juste un top 10 d'aspirants. Puis, attendez-vous à ce que son adversaire soit vraiment Lukas Rosensky, le Polonais, en Colombie. Mais il n'y a aucun buzz sur cette division de poids. Ça embarque pas. Puis, juste vous donner une idée, j'ai fait des recherches scientifiques. Quand la WBC est arrivée avec la ceinture des Cruiserweight, la ceinture des... À l'époque, je crois que c'était 205 livres. Mais en tout cas, je ne sais plus. Là. Ils sont arrivés avec la ceinture en 1979. Ça a pris 3 ans avant que la WBA embarque en 82. 4 ans avant que la IBF embarque en 83. Puis 10 ans avant que la WBO embarque en 89. Fait qu'ils n'ont pas vraiment de garantie que les autres associations vont suivre. Ce qui fait qu'ils ont comme le corps de la publicité des autres. Il n'y a pas d'aspirant vraiment important. On est allé chercher un gars chez les 200 pour le premier championnat du monde en Ryan Zarzycki. J'ai malheureusement l'impression que c'est une catégorie qui va jamais lever puis qui va tourner en rond. Puis c'est un peu pour ça que Yvon Michel est assez vif d'esprit pour profiter du côté local puis d'aller faire la première défense en Colombie, où là, eux vont dire « Ah, combat de championnat du monde en Colombie avec un Colombien. » Eux, ils ne voudront pas nuire à l'histoire derrière et eux, ils ne se poseront pas toutes ces questions-là sur la nécessité d'une ceinture chez les 200 livres. Puis là, ils vont plus comme, tu sais, prendre le happening quand ils passent. Voilà ma théorie. Et en demi-finale, ah, j'ai envie de vous le dire, mais je ne sais pas à quel point on est écouté, mais en demi-finale, imaginez l'affaire. Oscar Rivas, un Colombien, contre un Polonais en Lukas Rosensky. Puis imaginez l'affaire s'il y avait la plus grande Colombienne de l'histoire de la boxe féminine en demi-finale. J'en dis pas plus. Vivez avec ça. Oh! Les petites infos qui rentrent en cachette, puis je veux pas trop vous en donner, parce que si je vous en donne trop, ben il me restera plus rien pour la semaine prochaine, vous voyez, c'est comme un plan. Donc, écoute, j'ai quasiment honte d'arrêter le podcast aussi rapidement, mais il y a moins d'infos. La semaine prochaine, on va être débordé, combat de Golovkin, surveillez ça, vendredi prochain on reçoit Marc Ramsey, on va le faire parler. Attendez-vous à ce qu'il y ait un gros blitz dans les annonces. Eye of the Tiger, c'est pas caché qu'ils ont signé quelqu'un de trois marches à la fois pour Mary Spencer, donc ils vont finir par faire leur annonce. Attendez-vous, comme je vous ai dit, un gala en Colombie pour Oscar Rivas avec une demi-finale énorme pour vous autres au Québec. Attendez-vous à ce que Ulysse soit rajouté à une carte à Brampton, Ontario. Il va y avoir beaucoup de promos à propos de David Lemieux à Phoenix. On y reviendra. Butler a déjà dit qu'elle est de retour, possiblement en Ontario où il va y avoir une carte au Québec. Les choses se passent. Les minutes que j'arrête ça à l'avance aujourd'hui, c'est des minutes que je vais me reposer pour être prêt dans les prochaines semaines. Merci à tous. C'était l'épisode des Alcooliques Anonymes, l'épisode 120.
Mais que ce soit Johnny Gaudreau, que ce soit Hulk Hogan, que ce soit King Kong Bundy, n'importe qui, il faut que t'ailles de défendre. Ouais. Moi, honnêtement, les gars, moi, la semaine de congé, là, ça l'aurait caliqué dans le derrière, pour dire ça. la façon...
Moi, la façon... Avoir, la même chose.